France Culture.
Vous voyez comment ils étaient beaux, les artichauts, dans ce temps-là. Regardez la hauteur des artichauts à côté de maintenant, qui font, ils font 40 cm de haut.
Alors, vous étiez plus en avance dans la saison, et puis ils étaient plus hauts.
Plus en avance, et puis plus beaux.
D'accord.
Oui. Ah oui.
Où est-ce qu'elles étaient, vos terres?
Moi, j'avais tout sur la route de Besancourt.
D'accord. Donc c'était tout en zone d'épandage.
Tout en zone d'épandage, oui. Bon, mais tout le monde était bien content parce qu'on avait quand même de la belle marchandise. Hein.
Oui, mais les clients ne le savaient pas. Ils ne savaient pas comment c'était. On arrosait ça avec
l'eau sale.
Alors, ils nous appelaient, les merdeux, hein, c'est ça.
Le nom, c'était De Brousquès, qui vendait
De
la gadoue.
Oui.
Je m'en rappelle qu'il passait à la maison, c'était De Brousquès.
Il venait d'où, vous savez pas?
Oh, ça venait de Paris.
Ouais.
Paris, Gennevilliers, ou j'en sais rien, moi. Elle a fait analyser des légumes de Pierlet, elle a fait analyser des légumes d'ailleurs, c'était exactement pareil.
C'est
hein. Mais il faut voir les tonnes de marchandises qui a pu sortir dans la rue.
Oui, puis
à Pierlet comme à la Haute-Borne. Comme,
enfin, comme nos analyses, ils étaient aussi bonnes que les autres. Hein.
Moi j'ai connu l'eau d'épandage dans ce terrain-là aussi. Hein.
Ah bon, il y a eu de l'épandage dans cette
rue-là. Dans cette rue-là, il y a une conduite qui passe avec les bouches. La conduite a y est encore dans la terre. Hein. Il y avait une grosse rigole qui descendait en bas, puis ça arrosait dans le grand clos à Vétil.
Est-ce que vous avez déjà vu dans Pierlet des bouches qui sont condamnées, qui desservaient des coins qui maintenant sont lotis? Non, ils ont enlevé les bouches.
Oh, ils enlèvent les bouches. Oui. D'ailleurs, la dernière bouche, là, celle-là qui arrosait là, c'est moi qui l'ai arrachée. Oui, c'était l'année que... On a eu notre tracteur chez mes parents, et puis cette bouche-là, elle est restée là, et puis personne s'en servait. J'ai attrapé la bouche, je l'ai mis dans le tombereau, puis je l'ai été la mettre à la décharge, à la carrière là-bas.
Ah oui.
Alors aujourd'hui, il y a différents projets, notamment bien sûr l'aménagement de la forêt, hein, la forêt de Maubuisson. D'abord appelée forêt du Grand Paris, puisque c'était dans le cadre de la mise en place du Grand Paris. Et puis, finalement, appelée forêt de Maubuisson, ce qui renvoie à un nom local. Hein. Voilà, donc, une rénovation, une réhabilitation du site autour de cette forêt qui, tout doucement, commence à voir le jour. Comment occuper l'espace de ce site? Puisqu'il faut forcément trouver une occupation, un site, sinon il se couvre de déchets ou il sert de décharge. Je m'appelle Béatrice Cabedos, je suis chercheure en histoire et je travaillais pour le Conseil départemental du Val d'Oise, le département pour lequel on a mené avec une petite équipe une étude sur l'histoire des champs d'épandage de Pierlet avec une enquête ethnographique. Ici, à Pierlet et dans les villages alentours, sur la plaine, hein, la plaine de Pierlet, s'est développé un modèle agricole spécifique qui n'est pas unique. Il y a quelques autres sites d'épandage à proximité de la capitale. Mais donc un site qui a trouvé une certaine prospérité grâce aux eaux usées de la capitale. Alors les eaux usées, ce sont les eaux qui arrivent par les égouts, donc les eaux ménagères, les eaux de ruissellement des rues, et puis urine et excréments. Et ces eaux donc sont arrivées à Pierlet en 1899. Via l'émissaire général, donc une énorme canalisation qui passait par Clichy, Colombes, et qui conduisait les eaux usées de la capitale jusqu'au centre de la plaine. ça a permis de fertiliser les terres de cette plaine qui était réputée stérile.
Ciel, mes déchets. Une série documentaire d'Élise Gruau réalisée par Franck Lilin. Épisode 4, Urine humaine, des engrais contre la pénurie. Dans cet enregistrement datant de 2001, un couple de maraîchers d'Île-de-France témoigne de leur emploi, pas si ancien, jusque dans les années 60, des excrétats humains venus de Paris. Un modèle d'échange ville-campagne, aujourd'hui largement oublié, puisqu'en tirant la chasse d'eau, nos déjections disparaissent dans l'eau potable loin de nos regards. Mais pour autant, disparaissent-elles vraiment? Comme pour tous les résidus, le mélange est l'ennemi de la valorisation. Et là où nous avons appris à trier les déchets solides, n'est-il pas temps de réapprendre à séparer et collecter ces matières organiques pour leur redonner un usage utile? Alors que l'accès à l'eau devient de plus en plus problématique et que 81% des habitants de la planète vivent aujourd'hui en ville, n'est-ce pas le moment de reconsidérer ces matières et les gisements que constituent les villes? Et en tant qu'habitant des zones urbaines, passer du statut de consommateur qui pompe sur les ressources à celui de producteur de matières précieuses. Louise Raguet est designer, chercheure à l'École nationale des ponts et chaussées. Elle fait partie du programme OCAPI et a mis en place la filière En Ville pour engrais humains des villes.
Le tout à l'égout a été obligatoire dans toutes les habitations de Paris à la fin du 19e siècle. Et c'est arrivé un moment où en fait les habitations commencer à mettre l'adduction d'eau, donc c'est-à-dire l'arrivée de l'eau à boire et le l'eau de ménage à consommer, etc. Et donc en fait, le besoin premier, c'était d'évacuer ces eaux-là. Et que c'est tout à coup quelqu'un qui a dit on pourrait aussi évacuer les urines et matières fécales avec. Mais c'était loin d'être une évidence de mettre surtout les matières fécales qui sont solides, de les mettre dans l'eau, c'était vraiment loin d'être une évidence. Et il y a eu un grand combat qui s'est mené puisque il y avait des ingénieurs qui disaient ça va créer des énormes problèmes puisque ça va mal circuler et donc ça va se boucher, ça va créer... Donc en fait ça a vraiment été un débat. Et ça a été d'autant plus un débat que les urines et matières fécales étaient à l'époque collectées au pied des immeubles. Il y avait des fosses d'aisance qui étaient collectées par des vidangeurs et les matières étaient apportées à l'extérieur de Paris pour être proposées comme fertilisants agricoles aux fermes tout autour de Paris. Et donc le fait de mettre tout à coup les urines et matières fécales dans l'eau, ça nous faisait perdre une ressource.
Alors, si on regarde comment fonctionne la culture d'une plante, elle a besoin de prélever des nutriments dans le sol pour se nourrir et constituer la plante. Ces nutriments, ça va être l'azote, le phosphore, le potassium et d'autres atomes.
Fabien Esculier, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, coordonnateur du programme de recherche action OCAPI.
Une fois qu'on a récolté, on va extraire ces nutriments du champ parce qu'on va récolter typiquement des grains de blé. Et puis ensuite, on va les manger. Alors quand on regarde la physiologie du corps humain, l'ensemble de tous les nutriments qu'il y avait dans un aliment, l'azote, le phosphore, le potassium, l'azote par exemple, il est dans les protéines, se retrouve en fait dans nos excrétions. On ne conserve pas ces matières dans notre corps, ce sont des flux qui nous traversent. Et donc on retrouve l'intégralité de l'azote, du phosphore, du potassium dans les urines et matières fécales humaines, qui sont justement les matières que mangent les plantes. C'est-à-dire que nous, on les mange sous une forme typiquement protéine pour l'azote, mais le corps n'arrive pas à les recycler, donc on les excrète, typiquement sous la forme d'urée. Or, c'est justement la réaction que font les plantes, elles prennent de l'urée dans le sol, ou une forme proche de l'urée, et le convertissent en protéines. Donc, utiliser les excrétions animales de façon générale, et humaines en particulier, c'est justement permettre une économie circulaire de l'agriculture. Alors, du fait de ce fonctionnement, je dirais, symétrique entre la physiologie des plantes et la physiologie du corps humain, qui permet d'avoir une économie circulaire, on a en fait très majoritairement eu dans l'histoire de l'humanité des retours au sol des urines et matières fécales. Alors, on connaît bien le retour au sol des urines et matières fécales animales, pour laquelle la situation est la même, hein, la vache, le cochon, la poule, etc. Mais la situation est exactement pareille pour les humains. Je dirais même que comme l'agriculture a pour vocation finale de nourrir les humains, le gisement, je dirais, ultime de l'agriculture, ce sont les urines et matières fécales humaines. Mais on sait que dans de très nombreux contextes, il y a eu des intenses économies de ce qu'on appelle l'engrais humain, c'est-à-dire des urines et matières fécales humaines utilisées comme engrais, dans tout un tas de contextes. Alors, on peut penser en particulier à la Chine, où c'est très bien documenté, depuis le XVIe siècle en particulier, mais on a des documentations très antérieures aussi, on en a en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, et plus particulièrement en France, cette économie a été florissante. Elle a été très bien documentée au XIXe siècle, où il y a un intérêt très fort pour le recyclage des urines et matières fécales humaines. On a par exemple documenté que, à Paris, on a assisté à une montée très importante du taux de recyclage des nutriments des urines et matières fécales humaines tout au cours du XIXe siècle.
On se trouve ici à Pierrelaye, dans le bourg de Pierrelaye, un ancien bourg rural qui s'est beaucoup développé ces 30 dernières années. On est à quelques kilomètres de Pontoise, dans le département du Val d'Oise, à une trentaine de kilomètres de la capitale, donc à l'ouest.
Béatrice Cabedos.
Et nous sommes près de l'usine élévatoire, l'usine de la ville de Paris. On aperçoit le blason avec la nef qui symbolise la capitale. Cette usine qui était une usine élévatoire, elle ne retraitait pas les eaux usées de la capitale, dont les eaux d'égout, mais elle permettait, grâce à des pompes et des machines qui fonctionnaient à la vapeur avec du charbon, elle permettait de refouler les eaux au centre de la plaine, puisque le centre de la plaine est plus élevé que le bourg de Pierrelaye. Paris ne savait que faire de ses eaux usées à un certain moment. En 1860, à peu près, le réseau d'égout parisien est conçu par l'ingénieur Eugène Belgrand. Il passe sous les rues et les eaux se rejettent par des collecteurs dans la Seine. Et les ingénieurs n'ont pas imaginé que l'été, quand le niveau de la Seine est très bas, eh bien, ces eaux ne s'écoulent pas, il n'y a pas de débit. Elles empuantissent les rives. On a les populations qui, en aval, boivent, consomment l'eau de Seine. On a des cultures qui sont irriguées avec l'eau de Seine. Les bêtes, les chevaux notamment, boivent l'eau de Seine. Donc, on a un fleuve pollué dans les années 1860-65. Et il faut absolument trouver une solution. Que faire de ces eaux usées ? Et c'est un ingénieur, Adolphe Mille, qui est envoyé donc par le baron Haussmann, le préfet de la Seine, hein, dans le cadre des grands travaux de réaménagement de la capitale. Hein. Et donc Adolphe Mille est envoyé par l'empereur voir ce qui se passe à l'étranger, que font les étrangers de leurs eaux usées. Et il revient avec l'idée d'irriguer ces eaux usées sur des zones cultivées. Et ensuite, ils vont aller à Gennevilliers, à Nières, Gennevilliers, dans la boucle de la Seine, tester les épandages.
Et donc à partir de 1894, les Parisiens sont censés envoyer leurs excréments dans un réseau de tout à l'égout. Et donc là va se créer une nouvelle matière qui est l'eau usée. Donc les eaux usées, c'est des excréments humains, mais extrêmement dilués.
Étienne Dufour, docteur en aménagement, spécialiste de l'histoire du recyclage.
Dans le projet de Belgrand et des autres personnes qui travaillent avec lui, on projette de maintenir un recyclage agricole, puisque donc ces matières concentrent beaucoup de nutriments importants pour l'agriculture. Et ce qui va se développer à ce moment-là, c'est des champs d'épandage, donc en aval de Paris, au-dessus de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, il y a la ville d'Achères. Avant ça, il y a la plaine de Gennevilliers. La boucle de Gennevilliers d'abord, puis après donc la plaine d'Achères et différentes régions qui sont situées autour de là, autour des villes de Carrières-sur-Seine, Méry-Pierrelaye, tout ça. On va épandre donc les eaux usées sur des champs d'épandage dans une visée de récupération, de fertilisation et d'irrigation de terres qui sont pas forcément très riches pour le coup sur le plan agronomique, mais qui vont être enrichies par ces excréments humains-là.
Donc les ingénieurs ont choisi le sens gravitaire, c'est-à-dire que comme ces eaux, une fois qu'elles ont traversé le sol après avoir été filtrées et avoir humidifié le sol pour permettre aux plantes de pousser, ces eaux repartent par des drains au cours d'eau le plus proche, Donc ça va être la Seine pour les champs d'épandage de Gennevilliers puis d'Achères. Et à Pierrelaye, ça va être l'Oise. Cette plaine avait commencé à se tourner vers le maraîchage alors qu'auparavant, il y avait quelques céréales, que de l'osier pour fabriquer les balais. Cette plaine avait commencé à se tourner vers le maraîchage avec l'arrivée du chemin de fer et des wagons qui amenaient en quantité énorme les gadoues parisiennes, c'est-à-dire les ordures ménagères et ce qu'on ramassait, ce qu'on balayait dans les rues et qui arrivaient ici. Alors, ordures et eaux usées étaient éminemment riches. Il faut dire qu'à l'époque, les engrais chimiques n'existaient pas et que le seul moyen d'amender les terres, c'était ça. Quand on avait du crottin de cheval à proximité, du crottin d'animaux, c'était intéressant. Mais sinon, les terres étaient stériles. Et on est vraiment dans un système d'échange, une boucle avec la capitale. La capitale envoie ici ses déchets, ses eaux usées, et en échange, eh bien, Pierrelaye et les communes environnantes renvoient à la capitale des quantités importantes de légumes. Et après le siège de 1870, alors que les Parisiens ont souffert de la faim, c'est très important de trouver des terrains cultivables à proximité de la capitale. On n'a pas de camion qui puisse amener des légumes en une journée depuis des territoires très lointains.
Les premières expérimentations des champs d'épandage, c'est à partir de 1870, et puis ça va s'institutionnaliser à la fin des années du 19e siècle et atteindre le summum de son développement autour des années 1900-1910, avant la Première Guerre mondiale. Donc là, on a, avant la Première Guerre mondiale, 5100, un peu plus peut-être, hectares de terrain qui sont situés donc en aval de Paris, à une vingtaine de kilomètres, au bord de la Seine, irrigués par des eaux usées des Parisiens. On aurait, autour de 1900, plus de 50% des nutriments importants, que sont l'azote, le phosphore, qui se retrouvent dans les excréments humains, qui sont valorisés de manière agricole. Le recyclage de ces éléments-là aujourd'hui est quasiment nul, on est quelques pourcents.
C'est vrai que ces champs d'épandage ont énormément produit. Il y avait, sur une année, certaines zones pouvaient y avoir 2-3 récoltes par an. Quand en hiver, quand tout était gelé, on pouvait dégeler les légumes, les apporter aux Halles de Paris, où évidemment ils étaient vendus très cher. En période de sécheresse, seules les zones d'épandage fournissaient les Halles de Paris en légumes. Et là, bien évidemment, le cours de ces légumes montait. Et certains historiens, géographes ont pu dire que les champs d'épandage avaient contribué à nourrir énormément les Parisiens et à maintenir relativement bas les cours des légumes. C'était des convois de charrettes qui prenaient la Nationale 14, hein, puisque de Pierrelaye pour aller à Paris, on prend la Nationale 14 et qui se suivaient, ils partaient au milieu de la nuit pour aller aux Halles de Paris, les Halles Baltard. Hein.
Le principe de dire ce sont des matières fertilisantes qu'il faut retourner au sol, il perdure largement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est vraiment pendant cette période qu'on appelle souvent les 30 glorieuses, que certains rebaptisent les 30 désastreuses, qu'on finit par se détourner de ces matières. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en détourne? Très schématiquement, on passe à une logique agricole qui est basée sur des engrais issus de ressources fossiles, donc soit de l'azote issu de la pétrochimie à partir de gaz naturel fossile, soit des phosphates ou du potassium qui vient de ressources minières. Et donc finalement, on a une sorte de ressource illimitée, en tout cas perçue comme telle, en tout cas dont l'impact environnemental est négligé, qui va être la base de la fourniture de l'engrais pour l'agriculture. Et l'agriculture va donc progressivement se détourner de l'économie organique de la fertilisation qui prévalait auparavant. Et donc, les urines et matières fécales humaines vont devenir progressivement une charge pour les collectivités, puisque, alors qu'elles étaient auparavant achetées, le monde agricole s'en détourne. Et dans le même temps, on a un déploiement massif de l'usage de l'eau en ville, avec l'adduction d'eau dans les foyers. Et les particuliers plébiscitent l'usage d'une toilette à chasse d'eau comme étant un dispositif qui est pratique pour évacuer les urines et matières fécales. Mais ce faisant, on va contaminer l'eau et on va, dans la plupart des cas, ne pas pouvoir valoriser ces matières. Donc au fur et à mesure des années 50, 60, 70, on va assister à deux choses. D'une part, l'effondrement de cette économie de l'engrais humain, et d'autre part, une destruction généralisée des cours d'eau en France, qui vont être intensément pollués par les urines et matières fécales, puisque c'est de l'engrais, dans une rivière, et là, elles vont être en beaucoup trop grande quantité, on va avoir des développements massifs d'algues qui vont conduire jusqu'à la mort biologique, pour ainsi dire, de la rivière, par développement extrême des algues, ce qu'on appelle les marées vertes.
Aujourd'hui, on a un système d'assainissement qui dilue notre pipi et notre caca dans beaucoup d'eau et qui, dans des usines de traitement des eaux usées, s'attache à détruire tout ce que ces eaux contiennent pour essayer de les rendre le plus propres possible au milieu aquatique. Ce faisant, donc, on détruit toutes les matières fertilisantes en fait que nos urines et matières fécales contiennent. Alors, on les détruit pas complètement et donc il en reste dans l'eau derrière, donc ça génère des pollutions. Ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire qu'on donne à manger des engrais aux rivières, finalement, et ça fait proliférer les algues, ce qui asphyxie les milieux aquatiques.
Marine Legrand, biologiste et anthropologue.
Et en retour, finalement, ces matières, on ne les utilise pas, donc c'est un manque à gagner. Et on pourrait se dire, comme on le faisait par le passé, qu'on peut en avoir l'utilité pour la fertilisation agricole. Dans les matières fécales, on a de la matière organique, on a des fibres, on a quelque chose qui, via le compostage, peut offrir un amendement qui peut nourrir le sol. Et dans nos urines, on a du phosphore, de l'azote, du potassium, des nutriments qui, en fait, sont ce que les plantes mangent. Nous, on a mangé les plantes au départ, ou on a mangé les animaux qui ont mangé les plantes, mais ces nutriments, ces éléments, l'azote, le phosphore, le potassium, ils ne disparaissent pas, ils circulent. Donc, à la sortie de notre corps, on peut se poser la question de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut les mettre dans l'eau? Est-ce qu'on veut donner à manger aux rivières, finalement, ce qui ne leur rend pas du tout service? Ou est-ce qu'on veut donner à manger à nouveau aux champs cultivés qui nous nourrissent en retour? En tirant la chasse, on évacue de nos habitats, ce qui est très pratique, très confortable, toutes ces matières qui peuvent être dangereuses, qui peuvent sentir mauvais, qui sont très encombrantes. On les évacue, mais on les évacue aussi de notre pensée. On n'y pense plus, jeter, oublier. Finalement, on applique aux urines et matières fécales humaines ce qu'on applique aux déchets en général. Ce geste de jeter et de se débarrasser physiquement, matériellement, mais aussi symboliquement de toutes ces choses qui nous encombrent et dont on n'a plus l'usage. Mais c'est très particulier, les urines et matières fécales humaines, parce que, à l'inverse d'une bouteilles plastiques, par exemple. Là, on est sur des matières organiques qui sont prises dans des cycles de dégradation et de reconstruction qui sont vraiment au cœur du fonctionnement des écosystèmes. Et donc, quand on les met dans de l'eau et qu'on les dilue fortement et qu'après, on les a dans une usine de traitement des eaux usées, c'est très difficile d'en refaire des matières fertilisantes, c'est-à-dire qui se réintègrent dans les cycles de dégradation et de construction propres au monde vivant. Si on revenait à des pratiques qui consistent à les considérer d'abord comme des matières qui peuvent être utiles, alors on les réintégrerait dans quelque chose qui a plus à voir avec l'agriculture, finalement, quoi.
Et évidemment, les usages de l'eau sont multiples. Il y a des impacts environnementaux, mais également sociaux, qui sont très importants. On peut penser en particulier tout simplement à la consommation d'eau potable, qui dépend de l'eau dans les rivières. Donc évidemment, cela présente des impacts, des externalités sociales et environnementales très fortes et négatives. Et progressivement, on va venir à essayer de remédier à cette situation. Et en particulier, la loi sur l'eau, en 1964, instaure des agences financières de bassin, qu'on appelle maintenant les agences de l'eau, et dont l'objectif est de reconquérir une qualité des cours d'eau. Mais le paradigme d'évacuer urine et matière fécale par le tout à l'égout, c'est-à-dire de les mélanger avec le reste des eaux usées pour les évacuer de la ville, est devenu le paradigme dominant. Et donc finalement, ce qui va être cherché à être mis en œuvre, c'est comment est-ce qu'on peut réduire la pollution des rivières par des eaux usées une fois qu'elles sont évacuées de la ville. Et finalement, la solution technique qui deviendra la solution dominante, c'est la station de traitement des eaux usées, que je rebaptise usuellement des usines de destruction d'engrais naturels, parce que sur le principal engrais de nos excrétions, qui est l'azote, le procédé qu'on met en œuvre, c'est le procédé exactement inverse de celui d'une usine de synthèse pétrochimique d'engrais. Donc en fait, on a une usine en amont qui va, à partir de ressources fossiles, fabriquer de l'azote dont les plantes peuvent se nourrir. Ensuite, une fois qu'on a mangé, on excrète cette même molécule, l'urée, mais dans les stations de traitement des eaux usées, du fait du très fort taux de dilution, On n'a pas trouvé d'autres techniques qui permettent d'éviter la pollution de la rivière que de faire la destruction de l'urée par un procédé qui est également très énergivore et émissif en gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'on a abouti à une situation qui est beaucoup plus positive pour les rivières, parce qu'elles sont beaucoup moins polluées que ce qu'elles étaient dans les années 70, 80 ou 90. Mais en termes de circularité sur l'économie de l'engrais humain, on a abouti à un système dans lequel on consomme deux fois des ressources pour construire d'un côté et pour détruire une ressource de l'autre.
Depuis 10 ans, ingénieur, urbaniste, agronome, anthropologue, associé au programme de recherche action OCAPI pour optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en ville, développé par l'école des ponts et chaussées, ont élaboré avec des agriculteurs partenaires les connaissances et les outils nécessaires à la création de filières à grande échelle de séparation à la source des excrétats humains pour leur valorisation agricole et la préservation des cours d'eau.
OCAPI est un programme de recherche-action qui s'intéresse aux matières que nous produisons tous et toutes chaque jour, notre pipi, notre caca, et à la façon dont nous les gérons collectivement aujourd'hui. Plus particulièrement, on s'intéresse aux possibilités de remettre en discussion la façon dont nous les gérons actuellement, par le tout à l'égout, les stations d'épuration, par l'eau de la chasse d'eau, et nous essayons d'ouvrir la discussion autour des possibilités de leur donner un autre destin, de les ramener dans le cycle de la fertilité, dans le cycle du vivant.
Il y a un enjeu de changer de modèle agricole.
Alors aujourd'hui, on a un modèle agricole qui repose fortement sur l'utilisation d'engrais miniers et de synthèse, qui sont des ressources fossiles. Donc le phosphore, on va le chercher dans des mines, qui sont dans certains endroits dans le monde. Il y a par exemple un gisement très important au Sahara occidental. Le phosphore, donc, c'est une ressource minière, épuisable à moyen terme, qui sera épuisé à moyen terme. L'azote, c'est une ressource qu'on produit à partir de l'azote inerte de l'atmosphère. Donc l'atmosphère terrestre est composée principalement d'azote, mais que les plantes ne peuvent pas utiliser. Donc pour le rendre utilisable par les plantes, on le fait réagir avec une autre source fossile qui est le gaz. Ce gaz, on l'importe en Europe, principalement de Russie, voire d'Amérique du Nord. Et donc cette réaction qu'on fait à haute pression permettent de produire de l'ammoniac derrière des ammonitrates que les plantes vont pouvoir consommer. Donc, c'est aussi une ressource fossile indirectement, puisqu'on utilise du gaz pour produire ces engrais azotés. Donc grosse consommation énergétique et ressources épuisables là également. Alors en plus, on est dans un système agricole qui tient peu compte de la vie du sol et des cycles du vivant, qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'engrais en général sur les terres cultivées, ce qui participe à rajouter, quoi. On a ouvert un robinet, finalement, le robinet des nutriments, quoi, le robinet de l'azote en particulier. Et donc, on déverse en excès sur nos terres cultivées et à l'autre bout de la chaîne, dans l'eau, cet azote, ce phosphore, qui surcharge les environnements et qui les asphyxie. Donc, finalement, dans l'idée de réintégrer nos urines et matières fécales humaines dans le cycle de la fertilisation, il n'y a pas seulement l'idée d'être dans une forme d'économie circulaire, de revaloriser une matière, mais il y a l'idée d'avoir une réflexion globale sur ce système avec l'agriculture d'un côté, ce qu'on mange au milieu, et puis l'assainissement de l'autre côté. Avoir une réflexion globale, ça veut dire qu'est-ce qu'on fera quand on fermera ce robinet des engrais de synthèse, parce que de toute façon, on va le fermer à un moment, puisque ce sont des ressources finies. Et comment on peut fonctionner à une échelle un peu plus restreinte où ça recircule mieux, quoi.
L'intérêt de collecter l'urine et de la valoriser en fertilisant agricole est double. D'une part, c'est de proposer un engrais naturel et durable au monde agricole. Et d'autre part, c'est de protéger les écosystèmes aquatiques et de ne pas mettre notre urine dans l'eau, puisque les eaux usées s'en retrouvent polluées. Et donc ça permet de ne pas devoir traiter l'eau ni de rejeter de l'azote à la rivière.
Louise Raguet.
C'est vraiment cette idée que notre système aujourd'hui, il est absurde de sa linéarité, puisqu'on peut imaginer vraiment une ligne où au tout début de la chaîne, pour produire de la nourriture, on synthétise de l'engrais azoté avec du gaz naturel et de l'énergie. Ensuite, on va faire pousser des légumes, les manger, on va uriner et faire sortir de notre corps les nutriments qu'on a mangés. Et en fait, parce qu'on a mis ces nutriments dans l'eau, eh ben, on doit les détruire pour éviter de polluer les rivières. Et il y a quand même une pollution résiduelle. Donc en fait, on va consommer à nouveau de l'énergie et des ressources fossiles et aussi beaucoup d'argent, puisque ça coûte de faire ces traitements, pour essayer de ne pas polluer l'eau. Donc en fait, d'un bout à l'autre de la chaîne, pour synthétiser des engrais d'une part et pour détruire les engrais naturels qui sortent de notre corps d'autre part, on a dépensé de l'énergie, de l'argent, des ressources fossiles et dans les deux cas, on a créé des pollutions. Donc la séparation à la source des urines, ça permet d'emblée, en une fois, d'éliminer ces deux facteurs polluants et consommateurs de ressources.
La première chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a un intérêt de beaucoup d'acteurs pour la collecte sélective de l'urine. L'urine, c'est le mode par lequel on excrète la majorité de ces fameux nutriments qui sont si utiles aux plantes. L'azote, le phosphore, le potassium.
Fabien Esculier.
On a ensuite une facilité de collecte de l'urine par tuyau. On peut simplement la collecter, y compris dans un immeuble à plusieurs étages, par un tuyau dédié, et puis la récupérer en pied d'immeuble dans des cuves. Et ensuite, on peut récupérer cette urine et, après des transformations plus ou moins poussées, l'utiliser en agriculture. Nous avons ainsi, dans un second projet de recherche qui a été mené, qui s'appelle AgroCapi, évalué la pertinence agronomique de tout ce qu'on appelle les urino-fertilisants. C'est comme ça qu'on a nommé les matières fertilisantes spécifiques qui sont issues d'un traitement de l'urine et qui permettent de retourner au sol ces fameux nutriments utiles aux plantes. Et donc, nous avons constaté qu'il y avait une énorme gamme de traitements qui existaient pour avoir des urines qui vont être plus concentrées, par exemple, pour avoir moins de volume à transporter. Il y a aussi des stabilisations qui permettent d'éviter la volatilisation de l'azote et les odeurs. Il y a des traitements qui vont aussi s'attaquer plus particulièrement aux micropolluants. Donc, on a toute une gamme, en fait, de traitements qui existent autour des urines. Et ensuite, il y a, je dirais, deux matières, urine et matière fécale humaine, et donc finalement autant de choix possibles que de combinaisons qu'on peut faire. Donc on peut soit collecter juste l'urine, soit collecter juste les matières fécales, soit collecter les deux mais séparément, soit collecter les deux et ensemble. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de développement autour de la collecte sélective de l'urine. Peut-être un projet emblématique qui est déjà en fonctionnement qu'on peut citer, c'est l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne finance des travaux de recherche pour étudier les possibilités d'utiliser les urines dans les vaisseaux spatiaux pour la fertilisation de plantes et permettre d'avoir des boucles fermées dans l'espace. Et du coup, l'Agence spatiale a souhaité tester la possibilité de mettre en œuvre ces techniques développées pour l'exploration spatiale, y compris dans leur siège. Ils ont eu des travaux de rénovation de leurs bâtiments qui ont été menés et ils en ont profité pour changer les toilettes et mettre en œuvre des toilettes à séparation d'urine. Alors on peut déjà visiter le système qui est en fonctionnement. Il y a donc à la fois des urinoirs qui collectent l'urine du côté homme. On développe aussi maintenant des urinoirs féminins et des urinoirs mixtes. Pour l'instant, ils n'ont installé que des urinoirs masculins dans le bâtiment. Donc c'est des urinoirs sans chasse d'eau. On appelle ça des urinoirs secs. Et puis, il y a aussi des toilettes à séparation d'urine, c'est-à-dire des toilettes qui peuvent collecter les matières fécales. Ici, elles sont évacuées avec une chasse d'eau. Mais il y a un orifice spécifique pour les urines qui permet de les collecter, d'ailleurs avec un dispositif qu'on appelle par séparation, par capillarité, et qui permet de ne pas avoir besoin de viser, un dispositif qui est considéré comme plutôt très fonctionnel, y compris pour les personnes qui ne connaissent pas ce type de toilettes. Et ensuite, les urines sont collectées par tuyaux jusqu'au sous-sol. Et l'Agence spatiale européenne a mis en œuvre un procédé de concentration au sous-sol. Donc là, l'idée, c'est, pour ne pas avoir trop de volume à vidanger du bâtiment, on va installer une transformation par concentration des urines au sous-sol du bâtiment. Mais donc, le bâtiment de l'Agence spatiale européenne produit, dès aujourd'hui, à Paris, des engrais locaux et qui peuvent être ensuite exportés pour fertiliser des sols.
L'efficacité fertilisante de l'urine a été démontrée dans d'autres projets. On a fait des essais, notamment sur le plateau de Saclay, en collaboration avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, qui ont montré que l'urine humaine, le lysin, était aussi efficace que les engrais chimiques qui peuvent être achetés dans le commerce. Et donc ça, c'est une des expériences qu'on a faites. Et puis en fait, quand on regarde la littérature scientifique, dans le monde entier, il y a eu des recherches qui ont prouvé l'efficacité fertilisante de l'urine et le fait que c'était aussi efficace de fertiliser à l'urine qu'avec d'autres fertilisants beaucoup plus classiques, du commerce ou autres. Donc quelque part, elle n'est plus à démontrer, cette efficacité. En revanche, ce qui est important peut-être de développer, et c'est ce qu'on essaie de faire au sein du programme OCAPI, c'est de déployer des projets pilotes avec des fermes partenaires qui vont commencer à changer lentement leurs pratiques, tester sur un petit bout de parcelle, de multiplier les expérimentations de terrain avec des praticiens et des agricultrices qui font vraiment de la fertilisation à l'urine. Et donc, c'est dans cette optique aussi qu'on fait le projet en ville.
Et c'est un essai que nous avons fait autour d'une logique de microfilière citoyenne. Il s'est agi en fait d'analyser comment est-ce qu'on pouvait mobiliser le fait qu'il existe déjà des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui font venir en ville des légumes dans un camion qui repart ensuite à vide, et d'essayer de voir comment on pouvait imaginer que finalement ce camion reparte avec des matières fertilisantes que produit la ville tous les jours pour ne pas faire de retour à vide. Et c'est ainsi que nous avons monté la première filière de ce type qui est à Châtillon dans les Hauts-de-Seine et qui permet avec un point d'apport volontaire d'urine de faire fonctionner ce système. Nous nous sommes d'ailleurs inspirés de témoignages et de récits du 19e siècle qui montrent que c'est ainsi que fonctionnait l'aller-retour des nutriments entre la ville et les champs avec des maraîchers qui venaient avec leurs légumes et qui repartaient avec les excrétions des habitants des villes quand ils retournaient sur leur exploitation.
Je suis Louise Raguet, designer pour le programme de recherche OCAPI et je suis responsable d'un projet qui s'appelle En Ville pour engrais humains des villes, dont le principe c'est de proposer une filière citoyenne de valorisation agricole de l'urine. Donc là, on est au lieu où les habitants qui participent au projet viennent déposer l'urine qu'ils ont collectée à la maison. Nous sommes à Châtillon, dans le 92, dans le parc municipal Henri Matisse. Dans le bâtiment ici, c'est un local associatif où des gens, toutes les semaines, viennent récupérer leurs légumes puisqu'ils sont membres de la même AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. À travers ce projet qu'on a proposé donc aux habitants et aux membres de la MAP, c'est de collecter l'urine à la maison. Donc au lieu de faire pipi dans sa toilette à chasse d'eau comme d'habitude, on fait pipi dans un bidon à côté de la toilette. Et ensuite, on vient amener le bidon d'urine au point d'apport volontaire d'urine, et donc qui est à proximité de là où les gens viennent récupérer leurs légumes. Et ensuite, la ferme qui livre les légumes, au moment où elle vient déposer les légumes, elle peut récupérer l'urine pour ensuite l'amener à la campagne sur la ferme pour l'utiliser comme fertilisant. Donc notre travail, et surtout mon travail en tant que designer, ça a consisté à développer les dispositifs qui permettent que la filière soit pratique, confortable pour les participants. Il s'agissait de garantir aucune nuisance, aussi bien pour les odeurs que les renversements, etc. Donc mon travail, ça a été de développer différents systèmes qui facilitent les transvasements, aussi bien pour les participants habitants que pour les participants agriculteurs, pour que eux aussi, sur la ferme, ce soit très simple de manœuvrer les cuves d'urine, les volumes d'urine. Donc c'est tout des systèmes de pompes, de raccords rapides, etc. Tout est relativement simple, mais c'est quand même du temps de travail de le mettre en œuvre et de le construire et de le proposer à des participants. Et donc c'est ce travail-là qu'on a fait et qu'on a documenté en détail dans un rapport qu'on a mis en ligne pour permettre à d'autres collectifs ensuite de faire la même chose.
Donc, on y va. Bon, voilà, donc là, on est sur le point de livraison. Donc, ça, c'est de l'urine de Noël. Et du coup, c'est un bidon de 5 litres. Et il n'y a plus qu'à mettre le bidon sur le point de collecte. Donc on a un système qui est super simple avec une pompe. Donc on met la tige dans le bidon et puis ensuite on pompe. Donc en quelques secondes, le bidon est vide. Le bidon est vidé. Et donc ça va dans les cuves qui sont juste en dessous. Bon, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est on a des niveaux, tout ça. Donc vérifier à chaque fois qu'on va vidanger que les cuves ne sont pas pleines. Parce que si elles sont pleines, il faut bloquer le système pour que plus personne ne vidange. Et on attend que Simon, notre agriculteur, vienne récupérer le contenu de ces deux cuves pour l'amener sur son exploitation.
Alors moi, donc je suis Bruno Raquet-Jean, donc je suis un amapipien, c'est-à-dire qu'à la fois je participe à la MAP et donc toutes les semaines je vais récupérer mes légumes, mais j'ai la particularité de faire partie du projet en vide, c'est-à-dire de faire partie de cette expérimentation de récupération d'urine en vide. Donc chez moi, voilà, au lieu de faire pipi dans les toilettes, je fais pipi dans le bidon avec un entonnoir, donc un bidon de 5 litres. Donc je remplis des bidons et puis une fois que j'ai un bidon ou deux bidons qui sont pleins, je les amène sur ce point d'apport. Donc ça fait à peu près 5 litres tous les 10 jours. Donc c'est à peu près ma production. Pour moi, c'est quand même, c'est un geste pour la planète. Donc c'est super que je puisse avoir l'occasion de faire ça. Parce que ça fait un geste de plus, voilà, pour protéger la planète. Moi, je fais des économies d'eau. Bon, voilà, c'est une chasse d'eau que je tire pas quand je fais pipi dans le bidon. Et puis derrière, ça a d'autres impacts, c'est-à-dire que c'est d'urine qui va penser à son dépuration, qui n'est pas à être traitée. Ça fait des économies d'énergie. Et donc, moi, je trouve ça super de pouvoir contribuer à ce projet.
Les participants du projet, ils collectent leur urine à la maison depuis septembre 2022, donc bien avant qu'on inaugure le système, parce qu'en fait, très vite, ils ont été en mesure, en fait, finalement, c'est très simple de faire pipi dans un bidon, surtout quand on est un homme, et donc, très vite, ils ont rempli leur bidon et ils m'ont dit, Louise, il faut passer à la suite de la filière maintenant. Donc les gens arrivent avec un bidon de 5 litres et ils vident le bidon dans la grosse cuve de 300 litres. Et le but pour moi de conception, c'était vraiment que ça, ce soit très rapide à faire, parce que voilà, on n'a pas 10 minutes pour le faire, hein, c'est moins d'une minute pour vider son bidon, et qu'il n'y ait aucun renversement, aucun dégagement d'odeur possible, etc. Donc voilà, c'est tout un système avec des pompes et des tuyaux qui garantissent que les flux sont contrôlés. C'est très simple, mais ça change quand même leur expérience par rapport à s'ils devaient vider à la main le bidon, chose qui est vraiment extrêmement désagréable quand on manipule de l'urine. Donc il n'était pas question de faire ça.
Alors c'est un sujet qui est fascinant parce qu'il relie l'intime. On fait tous caca, mais en général en privé, et on fait tous pipi également. Et ça relie donc l'intime au planétaire, puisqu'on parle des cycles biogéochimiques, du fonctionnement de la biosphère, de nos systèmes de production à très grandes échelles. Donc l'enjeu, c'est de relier ces échelles entre elles, et en particulier de rendre compréhensible et commensurable à notre vie quotidienne, des choses qui sont très abstraites, complètement invisibles, à première vue. C'est pas très évident de se dire que quand on va aux toilettes, on a un impact sur la biosphère. Et qu'on est relié à des systèmes de production qui sont extrêmement longs et complexes, donc avec les champs d'un côté, qui peuvent être au Brésil, par exemple, et les stations d'épuration qui peuvent être à des dizaines de kilomètres de chez nous derrière. Et au rivage, qu'on va aller polluer indirectement en mettant notre pipi dans l'eau. Alors, c'est pas évident parce que ça nous met en prise avec quelque chose sur lequel on a peu de maîtrise. C'est-à-dire que quand on vit en milieu urbain, par exemple, on a des toilettes qui sont là, on a des habitats, on peut pas installer facilement des toilettes sèches chez soi, parce qu'on n'a pas d'espace derrière pour traiter ces matières et pour les retourner au champ. Les champs sont loin. Donc ça peut être culpabilisant. Ça, c'est une chose. Et donc il s'agit de trouver des manières de permettre aux citoyens qui le souhaitent, aux citadins motivés, il en existe de plus en plus, de malgré tout faire quelque chose. Donc les gens qui aujourd'hui décident de collecter leur urine et de l'impliquer dans des filières de recyclage collective trouvent une prise sur les enjeux planétaires à partir de leur vie quotidienne. Après, en milieu rural, c'est beaucoup plus simple. Hein. Le fait d'installer des toilettes sèches chez soi, quand on a de l'espace pour faire du compostage, pour utiliser son urine comme engrais au potager, là, déjà, c'est légal hein, d'avoir des toilettes sèches chez soi depuis 2009. Donc en France, par rapport à d'autres pays, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est des pratiques qui sont appropriables. Faire du compostage, ça s'apprend. Gérer son urine, ça s'apprend. Il faut avoir envie de le faire. C'est un certain niveau de contrainte, mais c'est possible. Et donc, de plus en plus de gens s'y essayent. On estime qu'il y a... on est à l'échelle de la centaine de milliers de foyers en France aujourd'hui qui ont des toilettes sèches. Alors, c'est pas énorme hein, par rapport à 70 millions de personnes, mais c'est déjà quelque chose.
La façon la plus simple de transformer l'urine pour fabriquer un engrais, c'est de la stocker pendant 6 mois. Il y a une transformation naturelle qui se fait de l'urine et qui permet de produire ce qu'on appelle du lysin pour le lisier humain. Ça permet d'obtenir un produit qui est, en termes sanitaires, qu'on peut utiliser en agriculture. Et donc, c'est ce type de produit qu'on fabrique avec le partenaire agricole du projet. On a choisi le traitement low-tech, hygiénisation par stockage, c'est comme ça qu'on dit.
Et quels sont les autres types de traitements qui sont nécessaires pour valoriser cette urine humaine ?
Il existe une grande diversité de traitements possibles qui vont du extrêmement low-tech et simple à des dispositifs plus industriels et plus technologiques. Pour en citer quelques-uns, il y a par exemple un système de nitrification, filtration et concentration. Donc ça permet d'enlever les odeurs, filtrer les résidus pharmaceutiques et concentrer l'urine pour ne garder que les nutriments et enlever l'eau. Et par exemple, ce traitement-là, c'est ce qui va être installé dans le 14e arrondissement de Paris, dans le futur quartier Saint-Vincent-de-Paul. Mais là, il s'agit de traiter l'urine de plus de 1000 personnes, donc c'est un système assez industriel.
La ville de Paris a décidé d'expérimenter la collecte sélective de l'urine pour l'intégralité du site, quasiment, c'est-à-dire 1500 personnes, dont les logements, mais aussi les différents bâtiments qui vont servir pour le fonctionnement du quartier, vont être équipés de collectes sélectives d'urine, avec un petit réseau uniquement à l'échelle du quartier, et à nouveau une usine de transformation par concentration pour permettre de produire de l'engrais. Et ici, la ville de Paris a étudié le fait qu'elle pouvait l'utiliser elle-même en remplacement des engrais qu'elle achète aujourd'hui pour fertiliser à la fois les fleurs qui sont produites et potentiellement des espaces verts, ce qui va générer des économies du point de vue de l'achat de matières fertilisantes pour la ville de Paris.
Il y a un autre enjeu qui est celui de la dimension intime de cette question et du tabou qu'elle représente, évidemment. Les urines et matières fécales, surtout le caca, c'est un sujet qui est tabou, dont il n'est pas évident de parler. Alors, ça dépend avec qui. Avec les enfants, c'est très facile d'en parler. Pour eux, c'est quelque chose d'étonnant, d'intéressant, d'amusant. Les adultes, ça dépend lesquels. C'est très variable d'un individu à l'autre. C'est variable d'une société à l'autre aussi. Ce que je constate, moi je travaille surtout en France, ça dépend complètement de l'éducation qu'on a reçue. Ça dépend du rapport qu'on a à son corps, en fait. Donc certaines personnes sont très à l'aise avec ça et d'autres sont complètement verrouillées. Et en fait, c'est un tabou qui se relie à d'autres dimensions de la vie. À la dimension sexuelle, par exemple, quand on a subi une agression sexuelle, il n'est pas rare d'avoir des problèmes digestifs, de constipation, par exemple. Enfin, c'est relié à des traumatismes qu'on a pu subir. C'est relié à la question sexuelle. C'est relié à la question de la mort aussi. Le fait d'avoir ces matières qui sont en putréfaction, qui s'éliminent de notre corps chaque jour, je parle du caca, ça nous renvoie à notre dimension de mortel, finalement, au fait que un jour, notre corps aussi, il va se dégrader, et les bactéries qui sont dans notre ventre, notre microbiote, qui chaque jour nous aident à digérer nos aliments, à les métaboliser, un jour, elles vont nous manger. Et donc, nous aussi, on va être mangés. On est mangeurs, on est des top prédateurs, on mange tout ce qui est autour de nous. Par contre, on peut être mangé de l'intérieur, par les bactéries, et puis les mouches aussi, après notre mort. Donc le fait de penser à ça, de penser à notre corps en voie de décomposition, c'est pas évident pour la plupart des gens, parce que on vit dans une culture où la question de la mort est très peu abordée, elle est mise sous le tapis, comme la question des déchets, comme la question du pipi et du caca.
Je vais devoir accéder, il y a du monde qui attend, je suis désolé. Moi j'ai déjà déposé mes bidons.
Est-ce que dans votre foyer, il y a d'autres personnes qui participent à la collecte d'urine ?
Non, il n'y a que moi, parce qu'il n'y a que des femmes à part moi. Et donc pour l'instant, c'est un peu plus complexe pour les femmes, puisqu'il faut transvaser. Et donc là, aujourd'hui, c'est un grand jour, parce qu'il y a Antigone qui vient nous présenter des nouveaux systèmes pour récupérer plus facilement l'urine sans avoir à transvaser des quantités d'urine. Et donc le but, c'est aussi de faciliter la vie des femmes et de permettre cette récupération d'urine. Ma femme est venue pour voir comment ça se passe et voir si elle va se lancer dans l'aventure.
Bah, merci d'être là, merci de me donner un peu de votre temps. Donc on va commencer chronologiquement. Donc ça, on peut dire que c'est la situation actuelle. Vous avez votre petit placard avec votre bidon et votre entonnoir, peut-être une cruche ou l'urinette Oriaz. Et ensuite, la suite, c'est les pistes que j'ai explorées. Je m'appelle Antigone Doron-Sornin. Ça fait 4 mois que je suis en stage avec Louise Raguet. Je fais une école de design et mon stage, ça porte sur la conception d'objets de collecte d'urine à domicile, notamment pour les femmes. L'idée de ce stage, c'était de développer d'autres manières de collecter son urine, notamment d'être capable de la collecter assise. Parce que pour l'instant, les femmes, elles utilisent une cruche, donc elles urinent debout dans une cruche, ou alors elles urinent dans un entonnoir qui a été conçu pour, qui est en forme de vulve, qu'on vise sur une bouteille, mais qu'on doit ensuite transvaser. Tout ça, c'est assez pénible et du coup, ça précarise la collecte. Et donc l'idée, c'était de faire des systèmes plus confortables que les femmes pourraient utiliser quotidiennement. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs pistes qui sont plus ou moins abouties. D'abord sur les systèmes qu'on installerait dans les toilettes à eau existantes. Donc on a un abattant comme on le connaît tous, avec un couvercle et une lunette. Sur la lunette, pour prototyper, je suis venue fixer une sorte d'entonnoir que j'ai imprimé en 3D. Donc ça fait environ la moitié de la cuvette. Donc quand on urine à l'avant, ça va dans cet entonnoir. Le pipi est donc collecté ici. Et ensuite, une fois qu'on a fini, au lieu de tirer la chasse, on vient lever l'abattant, ce qui permet à l'urine de s'évacuer par un petit tuyau jusque dans le bidon qui est posé à côté de la toilette. Vu les contraintes que posaient ces systèmes dans les toilettes à eau existantes, c'était de faire une solution à côté, autonome, donc une sorte d'urinoir assis qui ressemble en fait à un tabouret, c'est plutôt là-bas. Là, l'idée, c'est aussi d'avoir une solution plus rudimentaire que les amapiennes peuvent construire elles-mêmes, selon leurs besoins, alors que les autres, c'était plutôt des systèmes qui pourraient être produits industriellement dans l'idée. Donc moi, j'ai fait 3 versions de tabourets, en partant de tabourets qui existent déjà, des tabourets vendus par Ikea ou qu'on peut trouver sur le Bon Coin facilement. Donc par exemple, ce tabouret, bah, il ressemble à un tabouret. Sauf qu'en fait, quand on l'ouvre, c'est un tabouret sur lequel est fixé un entonnoir. Et donc, c'est un peu la chaise percée moderne. On ouvre son tabouret, on fait pipi. Et en fait, l'entonnoir va directement dans le bidon qui est sous le tabouret. Et une fois que le bidon est plein, donc il faut vérifier assez régulièrement pour pas que ça finisse par déborder, on peut juste lever le couvercle, soulever l'assise et reboucher son bidon, enlever son bidon, changer de bidon, et hop, remettre son assise sur le tabouret. Comme ça, c'est très simple d'usage, et ça permet de ne pas rajouter des contraintes sur l'utilisation des toilettes, alors que les autres systèmes, par exemple le séparateur, c'est assez contraignant, par exemple pour les hommes, pour qui c'est pas très adapté au niveau de l'anatomie, quoi.
Comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'odeur qui reste sur l'entonnoir, puisqu'il n'y a pas l'eau qui vient nettoyer, passer sur l'urine?
Chaque tabouret a son couvercle. Et on a ensuite travaillé à sourcer, donc à commander, trouver des références, notamment de joints pour les évacuations de machines à laver, qu'on vient mettre sur le bidon. Et grâce à ce joint, c'est comme scellé, de manière un peu étanche en tout cas, pour les odeurs. Ça, c'est l'idée. Et ensuite, à chaque utilisation, on peut faire sprayer, enfin, envoyer un petit coup de vinaigre blanc, comme dans les autres systèmes que les personnes utilisent déjà, notamment l'entonnoir vissé sur le bidon. Comme ça, ça permet de diminuer vraiment franchement les odeurs.
Pour les acteurs agricoles, nous avons mené plusieurs travaux, dont des enquêtes auprès du monde agricole sur le sujet. Ce qui ressort, c'est qu'on constate une efficacité fertilisante à peu près similaire aux intrants qui sont traditionnellement utilisés aujourd'hui. Donc la matière est plutôt perçue comme étant efficace, utile et pertinente. Ensuite, on a un souci principal qui est un souci logistique et de coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle agricole est globalement cadré par la politique européenne, avec un mécanisme de subvention très important, qui en fait oriente globalement les choix. Et si on veut mettre en œuvre des nouvelles filières d'utilisation de l'urine humaine, il n'y a aujourd'hui pas spécialement d'aide, de modèle économique qui permet de le faire. Et pour les acteurs agricoles, si en particulier on a des urinofertilisants peu concentrés, il peut y avoir un temps de travail plus important. Donc là, l'agriculteur dira légitimement, si je change de matière pour un temps de travail qui est plus important, comment est-ce que je rémunère ce temps de travail supplémentaire? Et on a globalement une efficacité économique qui est démontrée parce que l'ensemble des bénéfices qu'on a sur les questions environnementales et sanitaires pour les humains sont très importants. Donc si on les chiffre d'un point de vue économique, en fait, on a un bénéfice, mais les coûts et les bénéfices ne sont pas portés par les mêmes acteurs. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une redistribution des coûts. Et le ministère de l'Agriculture, qui était présent au colloque des 10 ans d'OCAPI, a indiqué la légitimité de ce sujet par rapport aux enjeux de souveraineté. Donc effectivement, on voit qu'il y a aujourd'hui un consensus assez fort d'acteurs sur la nécessité de faire émerger des filières soutenables, mais on n'a pas encore réussi à déployer les outils, les méthodes, les politiques publiques, en particulier à l'échelle nationale, qui permettent de réaliser effectivement ces filières.
Finalement, par rapport aux déchets plastiques, aux déchets dont on n'arrive pas à se débarrasser, urine et matière fécale, ça paraît quand même presque les plus simples à récupérer.
Les urines et matières fécales humaines, ce ne sont pas des déchets comme les autres, ce sont des matières organiques, donc qui ont vocation à retourner, à rester dans les cycles du vivant. Contrairement aux déchets de construction, aux déchets miniers, aux déchets plastiques, dont on peut espérer qu'on va en réduire la production à l'avenir, ce qui n'est pas le cas des urines et matières fécales humaines. Les urines et matières fécales, on va continuer à en produire chaque jour autant, c'est-à-dire 1 litre à 1 litre 5 d'urine par personne et quelques centaines de grammes de matière fécale. Donc, alors oui, ça pue, oui, ça peut être dangereux, mais on connaît les techniques qui peuvent permettre d'en faire des matières fertiles à nouveau.
Avec Béatrice Cabedos, Louise Raguet, Fabien Esculier, Étienne Dufour, Marine Legrand, Antigone Doron-Cernin et Bruno Raquet-Jean. Merci aux membres de l'AMAP Les Radioactifs à Châtillon et à Simon l'agriculteur.
Encore un petit pour faire un kilo.
Archives d'ouverture. Maraîcher à Pierrelaye en zone d'épandage, enquêtes orales département du Val d'Oise, réalisée par Béatrice Cabedos.
Oui, c'est du petit marron, ça.
Documentation INA, Mylène Touchet. Prise de son, Florent Bujon et Romain Lenoir. Mixage, Sébastien Royer. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Ciel mes déchets, épisode 4, Urine humaine, des engrais contre la pénurie. Une série documentaire d'Élise Gruau, réalisée par Franck Lilin.
Vous faites un petit reportage? Allez. On va peser nos navets. Ah oh bah il y a carrément... c'est bon. Il y a des gros yeux. Ah, hein, c'est trop. Ah ben, dis donc. Bon. Pas trop le coup. Bonjour. Allez.
Bonjour. Elle va venir nous.
Oh, ben,
pardon.
Les échalotes. Les courges, machin, la Marilène, là, comment ça s'appelle? Tu les as déjà faites ou pas? Parce que moi, il m'en reste une.
Ouais, t'en restes une?
Ben, non, il m'en reste une, mais c'est des courges un peu compliquées à faire, non? Alors, je...